Ah bah faut pas toucher le micro, dis donc, sinon il tombe.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les grands les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Monica.
Salut.
Alors, comment ça va?
Bah, plutôt bien.
Juan.
Salut.
Ça va?
Ça va.
Hicham.
Salut.
Tout va bien aussi pour Hicham?
La baisse.
Et Camille.
Salut, et oui, ça va très bien, merci.
Ah. T'avais pas un problème de voix tout à l'heure?
On fait aller.
Du chiquet.
Pardon d'avance.
Pardon maman. Bon, du coup, comment ça se passe depuis ce premier épisode, la notoriété, la fame, les gens vous arrêtent dans la rue?
Trop bien.
Truc de ouf.
On m'a donné un bateau. C'était génial. J'ai pas le permis, donc
un bateau.
J'attends un permis.
Genre en papier ou en...
Non, un bateau.
D'accord.
Un yacht.
Bateau ou bâton?
Un yacht.
Un yacht.
Pourquoi ça s'écrit yacht, yacht? C'est bizarre.
Ce sera un sujet pour les prochaines semaines.
Exactement.
Bien.
Moi, j'ai eu ma première auditrice qui m'a interpellé en soirée. C'est assez perturbant, mais...
Wouhou!
Et oui.
Elle t'a donné son 06?
Non. Mais en tout cas, elle a eu beaucoup de paroles gentilles pour notre travail, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'était très sympa.
C'est comme ça que t'appelles ça, toi, les paroles gentilles?
Oui. Du coup, on va pouvoir commencer avec le sujet de Camille. Alors, de quoi tu veux nous parler?
Eh bien, je vais vous parler tout simplement d'IKEA.
Cool.
Non, je suis ça, tu dis suédois.
Alors IKEA, en effet, IKEA, est-ce que vous avez une petite idée de en quelle année on a fondé IKEA?
Non, aucune.
Aucune.
Aucune idée.
1847.
Non, peut-être pas quand même.
1847. Allez hop.
Après guerre.
1960.
Alors c'est un petit peu plus vieux que ça, mais t'es pas si loin que ça.
Après guerre, après.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre.
En 1943.
D'accord.
Ça a été fondé par Ingvar Kamprad, qui est toujours vivant aujourd'hui, si je ne m'abuse, aux dernières nouvelles, et il vous salue. Et en fait, il a lancé IKEA, il avait 17 ans, et à la base, en fait, il vendait des allumettes à vélo.
Ok.
C'est une activité.
Non, c'est trop mignon. Les trucs qu'on pouvait faire que à cette époque-là.
Oui, non, c'est
tu
vrai.
Tu peux plus gagner ta vie en vendant des allumettes à vélo.
Mais c'est pas dit que tu la gagnes bien, quoi.
Ouais. Je sais même pas ce que c'est.
C'est vendre des allumettes sur un vélo.
Ils vendaient des allumettes.
C'est pas des allumettes à vélo.
J'ai mis du temps à comprendre aussi.
J'ai cru que c'était une partie du vélo. Moi.
C'est pour foutre le feu à ton vélo quand t'en as marre. Bon.
Et puis ensuite, du coup, il a développé un petit peu sa boîte. Il s'est mis à livrer à vélo des cadres, des lampes, tout un tas de choses. Le seul petit problème de cette période, c'est qu'il était plutôt copain avec les nazis. C'est un passé qui lui court encore un petit peu après aujourd'hui.
Tous les meilleurs l'été.
Hugo Boss, tout ça.
Oui, on peut voir ça comme ça. Pétain. Alors, le mot IKEA, est-ce que vous savez un petit peu ce que ça pourrait dire?
Du tout.
IKEA. Meuble.
Ah, non. C'est un acronyme.
International Kingdom of...
Establishment.
And Associations.
Arabia. Alors, IKEA, en fait, c'est l'acronyme de Ingvar de Kamprad, tout simplement. IKEA, voilà. Et ensuite, le E, c'est Entarid, qui est la ferme dans laquelle il a passé son enfance.
Oh.
Et le A, c'est Agunarid. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation,
c'est des
Suédois. Alors non, c'est le village dans lequel se trouve la ferme où il a passé son enfance.
Du coup, est-ce que tu peux nous refaire l'acronyme en entier?
Ingvar Kamprad, je te déteste. Ingvar Kamprad... Emtarid Agunarid.
Mais c'est génial, si tu veux aller un dimanche à IKEA. Tu viens avec moi? On va à Ingvar. Hein?
Merde. On dirait une incantation en grec ancien. Ingvar Kempran Emtanarid.
Alors il faut savoir que vous savez, le mobilier IKEA a toujours un nom absolument incroyable.
Hein, oui.
Les commandes Billy, les sièges Flubeluk, tout ça, tout ça. Et bien en fait, ce sont des vrais mots.
Oui, bah sans doute.
Qui existe réellement. C'est, ah non, moi j'étais convaincue que c'était.
Dire des choses.
C'était hocus pocus, oui, totalement. C'était des trucs totalement inventés. Mais en fait, par exemple, tout le mobilier qui est lié à la salle de bain, c'est des noms de lacs suédois. Pour le salon, c'est des noms de villes suédoises. Voilà.
Donc, mon Lixen à la maison, c'est un lac.
Exactement.
Mais du coup, ça risque pas de poser un problème, parce que des lacs, il n'y en a pas infiniment, je pense.
Bah, je sais pas, peut-être qu'ils vont commencer à renommer les flaques et. Pour une solution.
Il y a des gens qui pleuvent.
C'est vrai qu'ils ont quand même un catalogue impressionnant. Ils ont pas des petites variations qui n'ont rien à voir avec.
Alors, je crois qu'en fait, ils s'étendent avec les noms de toute la Scandinavie.
Maintenant. D'accord.
Voilà. Puis ensuite, ils vont passer au monde
dans le suédois.
Peut-être que dans 20 ans, on aura Clermont-Ferrand qui sera une table basse.
C'est ça, ou le pot de brosse à dents, lac de Genève.
Enfin, trop bien.
On pourra faire plein de trucs. Alors. En 1956, il va vendre son premier meuble en kit. Et en 1996, la première maison en kit. Alors imaginez qu'il nous faut déjà 2 heures pour monter une commode. Acheter ta maison en kit, je sais pas combien de temps il faut pour te la monter. Et ça, tu peux encore le faire aujourd'hui en Scandinavie. Ouais, tu peux acheter ta maison IKEA en kit.
Ah ouais,
avec le mini qui coûte que dalle.
Avec la vieille clé de merde.
Et puis il doit rester une paire de vis à la fin, putain.
Moi, j'aurais pas confiance de dormir dedans. Alors tout à l'heure, Juan, tu parlais du catalogue. Mmh. Qui est énorme et qui est également énormément vendu, étant donné que depuis le début des années 2000, chaque année, IKEA distribue plus de catalogues qu'on ne vend de bibles dans le monde. La bible, en général, c'est quand même la chose la plus vendue dans le monde en matière d'édition. Et là, non, le catalogue IKEA passe devant avec en moyenne 180 millions d'exemplaires par an. Et ils sont traduits dans 27 langues. C'est pas mal, on est d'accord.
Si Jésus faisait des canapés, il serait pas là.
je pense pas qu'il y ait ça dans ton sujet, mais moi j'étais vachement curieux des chiffres d'expansion d'IKEA. Enfin, j'ai toujours en tête Fight Club, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où il y a une parodie d'IKEA.
Exactement.
Et je me demande à quel moment c'est sorti de la Scandinavie pour vraiment se pleuvoir sur le monde entier en fait.
Bah, alors je sais que par exemple en France, le premier magasin en France c'est 81. Donc moi j'aurais tendance à te dire années 70.
Okay.
Que ça commence à se développer un petit peu en Europe, et je pense que ça a quitté l'Europe un petit peu plus tard, au milieu des années 80, je dirais.
Okay.
Voilà, à vérifier. Au niveau des magasins, je pense que vous êtes tous allés chez IKEA. Il n'y a pas d'extraterrestres à cette table, on y est tous allés. Vous avez dû remarquer à quel point c'est immense comme magasin.
Ouais.
Mais en fait, ça fait en moyenne, un magasin IKEA, ça fait 28 000 mètres carrés. Soit la taille de 42 cours de tennis. C'est pour ça qu'on est fatigué quand on sort. Hein.
Clean, moi ça m'angoisse ces magasins avec l'espèce de chemin là. Enfin, tu
oui,
fais
non,
le chemin.
C'est trop bien, il y a des petits raccourcis.
Oui, mais à chaque fois on se trompe, on va aller côté de la chambre, on atterrit dans le côté cuisine et tout.
Mais je sais quand ce chemin là qu'ils te font prendre, c'est exprès pour que tu vois le maximum de choses et qu'à la fin tu achètes. Il y a des ingénieurs qui s'occupent de ça. Quoi.
Ah, mais c'est calculé, c'est sûr. Ouais. Et je suis tombée sur un chiffre qui m'a vraiment impressionnée. Dites-vous qu'aujourd'hui, et je crois que ça c'est depuis 5 ans, IKEA utilise 1% des ressources en bois au monde.
Oh.
Et je trouve ça complètement flippant. On peut dire que 1% c'est pas grand chose, mais là on parle quand même juste de IKEA. Quoi. C'est énormissime.
Ouais, mais combien de meubles ils représentent dans le monde?
Alors, 7 Français sur 10 qui sont nés après 1995 ont été conçus dans un lit IKEA.
7 Français sur 10
ont été conçus dans un meilleur stade du monde. 70% des Français ont été conçus dans un lit IKEA. Très bien. Est-ce que le matelas était IKEA?
Alors ça.
T'imagines que à chaque fois que tu nais sur un meuble IKEA, on te donne le nom du meuble. T'imagines, tu t'appelles Billy.
Billy, tu t'en sors bien, à la rigueur.
Oui, c'est vrai.
Franchement. Alors, moi, j'aimerais finir un petit peu cette petite chronique, en fait, en poussant un petit coup de gueule, parce que IKEA, c'est dangereux. Mais j'aimerais commencer avec un petit aspect nourriture. Vous savez que IKEA a des cantines dans lesquelles vous pouvez manger, comme ça, vous pouvez passer la journée entière chez IKEA, et ça,
des
c'est
boulettes.
Super.
Allez,
et vous savez, il y a cette fameuse tarte au dain.
Quoi?
Je sais pas si vous vous en rappelez, vous pouvez acheter une tarte au dain.
Pas l'animal.
Mais non,
mais
le chocolat.
Non, le chocolat.
Idiot.
Et il est content de sa connerie. Et donc en fait, cette tarte au dain, en 2013, il y a eu un énorme scandale. En fait, dans 23 pays, il y a des analyses de tarte au dain qui ont été faites par les services d'hygiène. Et en fait, ils ont retrouvé des bactéries qu'on trouve que dans les matières fécales.
Voilà. Très bien.
Donc je n'achèterai plus de tarte au dain. Exactement.
Et les milkshakes, ils sont comment? Parce que moi j'aime bien les milkshakes de chez IKEA.
Eh ben écoute, il y a eu un souci visiblement que avec la tarte au dain, et s'ils ont eu un problème de viande aussi.
Ouais, clairement les boulettes et les hot dogs, ils n'inspirent pas confiance.
Hein. Voilà, bah il vaut mieux pas effectivement. Il y a eu des petits soucis en 2014, si je ne m'abuse, au niveau de la viande. Et j'aimerais vous dire également que IKEA tue. Étant donné qu'entre 1989
ce
et 2016,
talent de teasing, c'est incroyable.
Je dénonce.
Et ben, il y a eu entre 89 et 2016 5 morts à cause de la commande Malm, de la commode Malm.
Malm.
Ah,
Malm.
Avec un A tréma.
Oui, exactement. Peut-être que tu l'as cette commode.
Mais c'est pas impossible.
Méfie-toi, elle a tué 5 personnes et grièvement blessé 31 personnes.
C'est sûrement celle-là que j'ai pris sur la tronche d'ailleurs.
Mais dans un combat à l'arme blanche ou...
Non, c'est parce que normalement c'est une commode, ils te conseillent de la fixer au mur et les gens ne le font pas.
Oui, parce que
nous avec notre armoire, Hicham, par exemple.
Oui, voilà. Parce que quand t'as de l'IKEA, généralement c'est que t'es locataire.
Voilà, exactement.
Et
puis bah les gens sont mourus quoi. Dans leur sommeil.
Des os.
Et ce qui est terrible, c'est que souvent, ça arrive à des enfants. Voilà, c'était la minute triste. Et j'aimerais finir sur une note du coup plus joyeuse. En 2016, Klaus Jorstad, qui est un Norvégien de 45 ans, a décidé de prendre sa douche. Alors c'était un monsieur qui, je pense, devait avoir des soucis de mobilité à cette époque parce qu'il se douchait sur un tabouret. Et c'était le tabouret Marius. Alors je sais pas si vous le visualisez, c'est un tabouret, un des modèles phares de chez Ikea. Il a des trous sur l'assise.
Il est passé au travers des trous. Oh putain.
Non, il s'est coincé une couille dans un
tabouret. Oh non. Oh, non.
Si, si, et donc les pompiers ont dû venir et couper
le tabouret.
Bah merci Camille pour ce magnifique sujet.
Mais je vous en prie.
Et maintenant on va passer à un sujet très intéressant de Juan sur...
J'ai tellement cru qu'elle allait dire mais je vous emmerde.
Moi,
moi je vais vous parler de l'exception culturelle française.
Allons enfants de la pépaterie.
Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue.
Ah bah dis donc, toi, question culture, hein.
Donc l'exception culturelle française, c'est quoi? Est-ce que ça vous parle?
Mais les trois mots séparément. Oui. L'expression, je sais ce que c'est, culturelle aussi, française aussi. Mais
c'est pas le fait que la France est particulièrement riche en culture ou a une culture spécifique.
Eh ben non. Figure-toi que c'est plutôt parce qu'on a peur. Donc l'exception culturelle, déjà, ça remonte, on va dire, à peu près à 1959, lorsqu'on a confié à André Malraux la création du ministère de la Culture. L'expression culturelle, par contre, en tant qu'expression, on l'appelle aussi la diversité culturelle, ça date d'il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, ça date de 93, et ça a été décidé à l'initiative de la France par l'Union Européenne. Et en gros, pour vraiment simplifier, c'est un statut spécial des œuvres culturelles, par rapport au traité de libre-échange. C'est-à-dire qu'en gros, l'art, c'est pas du curry, on peut pas en faire commerce n'importe comment, il faut le réglementer pour protéger les contenus. L'idée, c'est ouais, de protéger les œuvres artistiques dans la mondialisation actuelle, en fait, et dans les traités de libre-échange, puisqu'on voyait déjà ça venir il y a un petit moment. Donc en gros, c'est plusieurs dispositifs, en fonction de l'art dont on parle, qui vont permettre à la fois de protéger les contenus qui sont produits en France, et en Europe dans une certaine mesure, mais surtout en France. Alors, ces contenus, ils sont différents. On va voir le cinéma. Alors, le cinéma, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CNC?
Oui.
Centre National de la...
Communication.
Cinématographie. Donc, le CNC, c'est eux qui vont, lorsque vous prenez un billet de cinéma, prendre un petit pourcentage, surtout sur vos billets en 3D, là, ils se mettent bien.
Salaud.
Et ce petit pourcentage-là, il va servir à financer à la fois le CNC, mais surtout les subventions des productions de films. La plupart des gros films français, en fait, sont produits quasiment que grâce au CNC. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent avec des mécènes ou des producteurs qui ont beaucoup d'argent. C'est pas forcément le cas en France. En plus, on a les acteurs, faut le savoir, qui ont les salaires les plus élevés en France. Christian Clavier est payé parfois plus cher que Johnny Depp sur un film.
Sérieusement?
Absolument. Tout ça, ça vient du CNC. On y reviendra dans la partie pas bien. Donc le CNC, il prend un petit pourcentage sur les billets. Il y a aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires des chaînes de télé. Et c'est redistribué dans différentes aides. Donc il y a des aides à l'écriture, des aides à la production, des aides à la distribution. Donc ça, c'est pour le cinéma. Il y a aussi un petit cas particulier. Les chaînes de télé doivent proposer au moins 60% de contenu qui est produit en Europe.
Ah, c'est pas aussi le cas avec les chaînes de radio.
Alors c'est aussi le cas avec la radio, on y vient tout de suite. La musique aussi a ses propres règles. La radio, en effet, elles doivent passer au moins 40% de chansons françaises dans leur programmation, dont la moitié, à peu près, doit venir de nouveaux talents. Bon, ça s'applique aussi au théâtre avec les plus grosses pièces qui vont financer les plus petites. Ça s'applique aussi au livre avec le prix unique. Donc qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans, d'après vous, qu'est-ce qui...
Bah, ça permet de continuer à faire vivre le cinéma, excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, mais ça, l'avantage, c'est que ça permet aux petits Français de pouvoir démarrer leurs œuvres, etc., que ce soit théâtre, etc. Ils ne sont pas forcément écrasés par les grosses productions étrangères qui, elles, ont marché dans leur pays et donc ont plus de chances de fonctionner en France.
Et en effet. Donc, dans l'état, l'exception culturelle, c'est pas un blocus des produits culturels étrangers. C'est souvent vu comme ça par ceux qui la critiquent. Le but, c'est pas d'empêcher l'importation d'autres produits. C'est plutôt de protéger les œuvres locales. Et la France tient pas mal à son exception culturelle, puisque vous savez qu'il y a pas mal de traités, le TAFTA notamment. Vous voyez de quoi je parle?
Canada.
Oui. Voilà, on a le CETA, le TAFTA, tout ça. La France refuse de signer ces traités, notamment dans les raisons de refus, c'est que on ne veut pas que les œuvres artistiques se retrouvent au même statut que des œuvres commerciales.
Ouais, c'est pas juste une histoire de viande, le TAFTA?
Le TAFTA en particulier, je ne sais pas. Là, je t'ai donné des noms de traités de libre-échange, mais je t'avoue que je ne connais pas le détail de comment ils fonctionnent. Et quand on voit l'expansion de l'influence culturelle, notamment des États-Unis en France, tout le monde porte des Nike et machin, et des Converse et écoute du gros hip-hop, on peut comprendre l'utilité de ce genre d'outils pour pas qu'une culture soit noyée forcément. Et c'est un modèle qui implique aussi la population dans le processus, puisque les taxations, elles vous concernent directement, vous, moi, le consommateur normal. C'est nous qui payons en fait ces subventions, donc on peut, de manière utopique, se sentir concerné. La France, c'est aussi le plus gros organisateur de festivals liés à l'audiovisuel, grâce à ça. Alors. Vous voyez pas mal de festivals, vous pouvez en citer quelques-uns?
Tout ce qui est Solidays, Rock en scène, etc.
Enfin, je parlais plutôt de festival
de
cinéma.
Le festival de Cannes. Gérard Armé,
qui est le festival du film
d'horreur.
Fantastique.
Ah, c'est pas horreur.
Hein, c'est fantastique.
C'est fantastique, d'accord. Mm-hmm.
On va voir le festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival au monde de courts-métrages, ce qui est pas rien quand même.
C'est cool. Ouais.
Mais si je vous demande par exemple de me citer des festivals italiens,
Venise,
La Mostra,
ouais. Mm-hmm.
Et ensuite,
c'est tout. C'est le seul que je connaisse.
Joker.
On est d'accord. Pour vous donner quelques chiffres, il y a un petit sondage qui a été fait en 97 pour regarder un petit peu quel pays avait organisé quel festival. Alors vous allez voir que la différence est monstrueuse. La France, en 97, a organisé environ 166 festivals de cinéma, contre 13 pour l'Espagne et 6 pour le Royaume-Uni.
166, comment c'est possible ?
Eh ben, il y a énormément de festivals locaux qui sont subventionnés justement et qui peuvent vivre grâce à cette exception culturelle.
Okay. Ça veut dire que quasiment un jour sur deux, il y a un festival de cinéma en France ?
À peu de choses près. Ne serait-ce qu'à Paris, quand tu regardes qu'est-ce que je peux faire à Paris sur Google, bah, tu vas trouver que chaque semaine, il y a des projections de courts-métrages.
Oui, ça, et autres. Ça peut être courts-métrages, séries,
sachant cinéma. Que les festivals durent plusieurs jours.
Oui, en effet. Mm-hmm. Enfin, revenons-en. Donc, au sujet, qu'est-ce qu'il y a de pas bon ? Dans l'exception culturelle.
Mais ce qui est pas bon, c'est que si je dis pas de bêtises, il y a une partie justement des gros acteurs de l'audiovisuel français, genre Canal+, qui sont obligés de donner pour ces productions-là et qui peuvent pas choisir en fait, choisir de ce qu'ils font de leurs subventions.
Sauf que d'ailleurs Canal+, la création de la chaîne a beaucoup joué sur les subventions du CNC, ça a apporté énormément d'argent par rapport à l'importation. Donc qu'est-ce qu'il y a de pas bon ? Bah déjà niveau pognon, il y a pas mal de critiques, hein, notamment du fait qu'une grande partie de ces aides vient de l'argent public et de l'inflation qu'elles ont pu causer. Force de financer un peu tout le monde, il y a beaucoup de sous qui partent et les productions commencent à gonfler leur devis. Pour avoir un maximum d'aide. Lorsqu'on va faire une demande de CNC, on va dire mon film il coûte tant, on va pas dire non, il coûte que 200 euros, filez-moi 200 euros, c'est très bien. On a un peu la même critique que pour les régimes d'aide sociale aussi. Si j'ai pas envie d'aller au musée, pourquoi est-ce que je devrais payer pour son entretien et pour que les autres aillent au musée ? Ensuite, comme tous les systèmes d'aide, donc il y a ceux qui ont compris comment ça marche, qui en profitent un max, et ceux qui en connaissent très peu les rouages et qui en profitent moins. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Christian Clavier, on va y revenir. Et lorsqu'on sait quelle est la file d'attente pour les projets au CNC, c'est assez impressionnant. On est quasiment sur 2 ans de liste d'attente lorsqu'on propose quelque chose,
oui,
sauf si on est Luc Besson ou on
trouve
du Splendide. Voilà.
Mais du coup, qu'est-ce qui va décider si un projet est accepté ou non ?
Alors, ce sont des commissions, en fait. On dépose un dossier au CNC. Il y a des commissions qui se réunissent, si je dis pas de bêtises, on va dire tous les 6 mois, à vérifier, hein. je me trompe peut-être, et qui vont décider de quels projets vont être financés. Donc, je vous parlais de Christian Clavier, on y revient. L'exception culturelle, elle est assez critiquée pour son côté vase clos, l'art et la culture qui se nourrissent du partage des idées, et si c'est les mêmes organismes de financement et les mêmes acteurs, les mêmes troupes qui font un petit peu toujours la même chose, bah c'est comme ça qu'on se retrouve avec un petit peu toujours les mêmes comédies françaises, où la dernière scène est un mariage. Je sais pas si vous voyez à peu près de quoi je parle, mais tout ça, ça nous vient de l'exception culturelle. Bon, je vais vous citer un écrivain péruvien qui s'appelle Mario Vargas Llosa, qui disait « La menace qui pèse sur Flaubert et Debussy, elle vient pas de Jurassic Park, mais des démagogues qui parlent de la culture française comme d'une momie qui se désintégrerait si elle était exposée à l'air libre. » Donc il critique le protectionnisme de cette méthode. Donc pour conclure, on va faire une petite note positive, c'est que parmi les 100 meilleurs films du monde, selon pas mal de sources, il y en a toujours une vingtaine qui viennent de la France, et parmi eux, il y a une bonne quinzaine de films qui ont bénéficié de ces aides-là. Donc sur les 100 meilleurs films du monde, il y en a peut-être une quinzaine qui ont été faits grâce aux aides de l'exception culturelle française.
Par contre, c'est quoi les critères pour décréter que c'est les meilleurs films du monde ?
Ah, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a plusieurs sources, parce que un meilleur film, c'est comme toute œuvre d'art, tu as le côté subjectif, mais tu as aussi la technique. Ce film a été bien monté, la musique est écoutable, les acteurs jouent bien ou jouent mal. Il y a des critères qui sont objectifs dont on peut se servir.
Et du coup, tu as des exemples de quelques-uns de ces films ?
Dans les 15 meilleurs, tu vas avoir notamment les films de Godard.
Ouais.
Tu vas avoir Le Mépris, tu vas avoir... qu'est-ce qu'il y a dans les 15 meilleurs films ? Il y a les films de Jean Vigo aussi. Si j'ai pas de bêtises, La Talente fait partie des 15 meilleurs films.
La Grande Vadrouille.
La Grande Vadrouille ne fait pas partie des 15 meilleurs films.
Il me semblait qu'il y avait les valseuses dans le tas, je vais pas dire de bêtises.
Je crois pas que les valseuses fassent partie des 15 meilleurs films.
Ça m'étonnerait. Enfin, peut-être en France, mais pas au monde.
Ouais, il a une très bonne réputation dans la nouvelle vague, mais je pense pas qu'il soit considéré comme un des meilleurs films.
Intouchable
non plus.
Non.
Très très loin d'être dans les 100 meilleurs films du monde, ouais.
Il a eu du succès, mais c'est
pourtant il va être repris en Amérique.
Oui, mais il faut pas confondre, je pense, popularité et 100 meilleurs films du monde. C'est pas forcément les plus populaires qui sont classés.
Tu voudrais bien nous donner un lien avec ces films ?
J'en ai pas en tête, mais je pourrais peut-être poster ça sur nos amis les réseaux sociaux. Donc malheureusement, on continuera de se taper la troupe du Splendide qu'on connaît bien au cinéma, mais parmi tous les films financés, on aura toujours des pépites qui font rayonner le cinéma français aux yeux du monde, et ça, c'est sympa quand même.
C'est vrai que c'est compliqué parce que bah, d'un côté il y en a beaucoup qui râlent pour ça, mais d'un autre côté il y a aussi des très belles productions qui sortent grâce à ça. Il y a, bah, il y a le Bureau des Légendes, il y a la troisième saison qui ressort bientôt.
Tout à fait, il y a aussi 10% qui cartonnent beaucoup.
Oh, j'adore.
Et bah, du coup, merci pour ce sujet. Du coup, je vais prendre la suite. Personnellement, je vais vous parler de sociologie et plus particulièrement de l'expérience du billet perdu.
On va parler de thunes donc.
Exactement. Alors effectivement, on va parler de sociologie. Vous verrez, c'est pas si chiant que ça. C'est même vachement intéressant.
Ah, pour l'instant, ça a l'air très intéressant.
Non, c'est vachement bien. Et du coup, je vais essayer de faire
sympa.
Une petite série, petit à petit, pour vous parler de quelques expériences sociologiques et de quelques mécanismes de sociaux. Déjà pour l'expérience du billet perdu, est-ce que certains d'entre vous la connaissent?
J'ai plusieurs trucs en tête, moi perso. Ah, est-ce c'est laisser tomber un billet et voir ce qui se passe? Ou est-ce que c'est l'accrocher à un fil et tirer pour voir si les gens y courent?
Non, c'est effectivement voir ce qui se passe. En fait, c'est une expérience qui va tester l'honnêteté des gens. Donc, c'est une expérience qui a été menée en 2002 par Robert Vincent Joule, donc un sociologue, un psychologue social français. Et cette expérience a notamment été reproduite en 2007 par l'université de Nancy 2. Et je vais justement plus particulièrement parler de cette reproduction parce qu'ils ont mis une vidéo sur YouTube que je vous conseille de regarder, tout simplement en cherchant expérience billet perdu. Et c'est vachement intéressant. Alors, le fonctionnement est assez simple. Alors, le décor, c'est simplement une petite rue piétonne avec assez peu de passages. Et il y a plusieurs personnages. Donc, il y a Monsieur Dupont, qui lui, en fait, ça va être la personne qui va faire tomber son billet en sortant son téléphone de sa poche. Madame Delalès, qui va servir de témoin. Elle promène son chien et elle va uniquement servir de témoin extérieur. Et il y a Monsieur Duchemin, qui va arrêter les passants à l'entrée de la rue pour leur demander sa route.
C'est un cluedo, en fait.
C'est ça. Donc il y a une première expérience test où il y a uniquement pour l'instant Monsieur Dupont et Madame Delalès, et en fait du coup il y a Monsieur Dupont qui va croiser Madame Delalès et un cobaye, donc la personne dont on va étudier le comportement, et quand il va laisser tomber son billet, on va voir ce que va faire le cobaye. À votre avis, quel pourcentage de cobayes qui rendent le billet? Parce qu'ils s'aperçoivent que le billet tombe et ils savent qu'ils sont vus, observés par Madame Delalès.
20
Bon, 40% je pense.
Ah ouais, moi je dirais même plus de 50.
Ah oh, non.
En sachant qu'ils sont observés, ça dépend de la valeur. C'est quoi la valeur du billet?
C'était soit 50 francs, soit une dizaine d'euros, en gros. 50 francs pour l'expérience initiale.
Alors je dirais plus que 40. Je dirais qu'on est dans les 70-80%
ouais,
même.
Ouais.
Et bien c'était 100%.
100%?
Ça m'étonne pas.
On a un beau résultat, mais en fait, voilà, le cobaye et Madame Delalès sont vraiment côte à côte. Donc il y a un jugement qui est assez direct. Là, il y a une espèce de bâton, comme bâton et carotte, où ils savent que voilà, si la personne les voit, elle va les juger s'ils ne le rendent pas. Donc ils vont réagir positivement.
Tu sais que ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin.
J'étais... Avec Madame Delalès?
Non. Je sortais du métro Poissonnière dans le 9e, pour ne rien te cacher. Et j'attendais au passage piéton. Et il y avait un billet de 5 euros par terre. Mais le truc, c'est que j'ai pas vu qui l'avait fait tomber. Et il y avait tellement de gens autour de moi que je me suis senti extrêmement coupable et je n'ai pas ramassé ce billet. J'ai tracé ma route, quoi. Donc peut-être que quelqu'un d'autre l'a ramassé, mais il y avait tellement de gens et je ne savais pas qui l'avait ramassé. Je me suis dit, putain.
La pression sociale.
Non, j'ai pas envie. Du coup, je ne l'ai pas ramassé. Donc il y a peut-être toujours, allez-y, Poissonnière, il y a peut-être encore un billet de 5 euros par terre si tout le monde a la même réaction bizarre que moi.
Mais voilà, du coup, on est très très sensible effectivement au regard des autres. Donc ça, on a effectivement un résultat de 100%, donc c'est très bien. Alors après, il va y avoir une deuxième expérience, on va changer un petit peu le cadre. Donc Monsieur Dupont va toujours laisser tomber son billet, et ensuite, sauf que cette fois-ci, en fait, il n'y aura pas de témoin. Donc le cobaye va être seul avec lui et sa conscience pour décider s'il rend le billet ou non. Donc là, dans ce cas-là, à votre avis, quel est le pourcentage de rendu de billet?
10%.
20.
Vous êtes pessimiste.
50%.
48.
C'est précis. Et c'était 30. Mais là, on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas de bâton.
Est-ce que tu lis la déception sur mon visage?
Un petit peu. Et donc, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de jugement. Donc, les personnes sont seules avec leur conscience. Et donc, il n'y en a que 30% qui ont rendu le billet. Donc, on voit déjà bien que, en fait, ce qui a motivé les gens à rendre le billet la première fois, c'était pas que le fait que ce soit bien ou mal. C'est qu'en plus, il y avait un jugement extérieur, il y avait une vision extérieure. Donc, ça a influencé leur jugement, leur comportement. Maintenant, on va avoir une troisième expérience où il y a Monsieur Duchemin qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire que lui, en fait, ils vont repérer un cobaye à l'avance et il va arrêter ce cobaye à l'entrée de la rue avant qu'il croise Monsieur Dupont. Et il va simplement arrêter la personne pour lui demander son chemin. et que là, voilà, la personne va lui dire, bah, c'est par-ci, c'est par-là. Et il va toujours systématiquement finir l'échange par « J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. » Et là, donc, on continue l'expérience.
Ah, le bâtard.
On continue l'expérience, le cobaye va croiser Monsieur Dupont, sans témoin, et il va laisser son billet. Enfin, laisser tomber son billet. Maintenant, à votre avis, combien de personnes ont rendu le billet ?
100.
80.
Ah, vous êtes optimiste. Cette fois-ci, 69%. Ce qui est quand même énorme. On passe de 30% à 69%.
Ah ouais ? Donc c'est ah, moi, j'aurais pris un regain de karma formidable. Je pense que j'aurais rendu le billet. Hein.
Et bah, c'est exactement ça. En fait, ça a vraiment changé le comportement des gens. Et voilà, le mec insistait vraiment sur « Merci, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous, etc. » Donc c'est un peu surjoué, mais ça a vraiment changé le comportement des gens. Donc c'est assez intéressant de voir pourquoi. Alors déjà, en fait, on peut noter deux mécanismes. Dans ce processus, on va s'arrêter sur deux mécanismes parce que c'est déjà bien. Il y en a un premier, c'est la technique du pied dans la porte. Alors on parle de la technique du pied dans la porte pour la première fois en 1966 grâce à deux psychologues sociaux qui sont Friedman et Fraser. En fait, le principe est simple, c'est le fait qu'un premier acte peu engageant va donner plus de chances de faire accepter un second acte beaucoup plus engageant. Mmh. Donc si on demande quelque chose de simple, on va pouvoir demander quelque chose de plus complexe après. Par exemple, on pourra dire à un pote, ah, est-ce que tu auras des conseils pour du matos pour un podcast? Et puis, ah bah tiens, ça te dirait de venir enregistrer. Et puis, ah bah tiens, est-ce que tu pourrais faire le mixage, le montage et les jingles?
Ouais, on connaît bien ça.
On ne cite personne autour de cette table, mais voilà, c'est toujours très utile. Et en fait, donc il y a un gros sentiment de liberté. Et plus on a ce sentiment de liberté de choix, plus on va se sentir... Plus le phénomène va être puissant, en fait, parce que la personne ne se sent pas sous pression, il n'y a pas de rapport de hiérarchie ou de puissance d'une personne par rapport à l'autre. On te laisse juge de la situation et c'est toi qui choisis de m'aider ou non, de faire l'action ou non. Il va y avoir un deuxième mécanisme en fait, qui est lié à ça, et c'est justement quand on n'a pas de moyens de pression sur la personne, donc de carottes et de bâtons, on va pouvoir utiliser une condition d'étiquetage, comme on le voit ici. Donc, comme on a dit, pour qu'une personne fasse un acte très engageant, il faut qu'elle se sente impliquée. C'est-à-dire que s'il y a un rapport de force carotte-bâton, une fois que le rapport de force n'est plus là, c'est pas dit que le comportement soit répété. Donc le mieux pour que la personne le fasse, c'est d'engager la personne, qu'elle se sente impliquée, qu'elle a envie de le faire. Et l'étiquetage psychologique, en fait, c'est une façon d'éliminer les contraintes externes de la tête du sujet. Donc il y a deux types de contraintes. Les contraintes internes, donc c'est par exemple, je ramasse un papier dans la rue parce que je suis une personne respectueuse et que je jette pas mes déchets n'importe où. Et une contrainte externe, ça va être que je ramasse mes papiers dans la rue parce que quelqu'un me l'a demandé. Et que si je le fais pas, bah, il va m'engueuler ou je vais me prendre une amende. Donc effectivement, on a tendance à se conformer à l'image que les gens donnent de nous, etc. Parce qu'il y a ces contraintes à la fois internes et externes. Et le fait d'appuyer sur la condition d'étiquetage, ça va permettre justement de retirer les contraintes externes et de jouer sur l'interne, donc jouer sur le sentimental, etc. Par exemple, bah là, dans cette expérience, Monsieur Duchemin dit « Vous êtes quelqu'un de bien », donc il retire l'externe, et la personne se dit « Je suis quelqu'un de bien », une personne bien rendrait le billet, donc je rends le billet, tout simplement. Bah voilà, qu'est-ce qui va être intéressant dans cette expérience? Moi, c'est un de mes leitmotivs, un de mes guides de vie. Bah c'est très simple, en fait, c'est que souvent, dans les expériences de pied dans la porte, on sait qu'on peut demander plus à une personne en lui demandant plusieurs actes simples, puis...
Est-ce que t'aimes le bleu? Ça parle, le bleu? Ouais, j'adore le ciel et la mer, super.
Ça te dirait.
Donc si je peins le salon en bleu, c'est cool.
Mais exactement, c'est exactement ça. En fait, du coup, d'une chose en une autre, par exemple, il disait, il y a eu des expériences aussi, où quand on demande l'heure à une personne dans la rue, puis quand on lui demande 50 centimes ou une clope, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Mais beaucoup plus, c'est-à-dire il y a un rapport de 3 à 4. C'est vraiment
énorme.
La vache.
Et moi, je me sers de cette expérience pour positiver justement dans la vie.
Je me sers de ça pour vous manipuler, en fait.
Mais pour de vrai, mais positivement, parce qu'on voit que Monsieur Duchemin et Monsieur Dupont, donc celui qui laisse tomber le billet, sont des personnes différentes. Mais le fait que Monsieur Duchemin ait été positif envers le cobaye, ça a permis au cobaye d'avoir une attitude positive par la suite. Donc c'est-à-dire que si vous êtes positif avec les gens, si vous leur renvoyez une bonne image, si vous les considérez comme des gens bien, Dieu vous le rendra. Mais oui, ils vont s'identifier comme de bonnes personnes, donc ils vont bien agir. Donc c'est-à-dire qu'on peut rendre le monde meilleur en étant bon avec les gens qui nous entourent.
Ben oui, c'est comme si tu arrives au travail le matin, tu croises une personne, tu fais « Hey, t'es super bien sapé aujourd'hui ». Généralement, elle va passer une bonne journée plutôt que si tu avais dit « Ouh, bon sur ton chéri, ça va pas du tout
». Voilà, et puis si on dit « Ah, mais c'est super sympa ce que t'as fait, c'est vraiment sympa d'avoir pris ce temps-là et tout, c'est vraiment cool de ta part ».
T'es vraiment une belle personne.
Et la personne, après, elle va être sympa avec vous, elle va être sympa avec d'autres personnes, et voilà, c'est le cercle vertueux.
Ou elle te dit « Je suis désolé, j'ai un copain ».
Bon, il y a des petits risques aussi, ça marche pas à tous les coups. Hein. Bah voilà, c'était une petite chronique de sociaux. J'essaierai d'en faire d'autres plus approfondies. J'ai une petite lecture que je vous conseille, et c'est justement notre cher copain qui a fait l'expérience du billet perdu, qui a coécrit ce livre. C'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, donc écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. C'est extrêmement intéressant, c'est bien écrit, c'est très accessible, et ça donne justement plein de mécanismes qui vont servir à manipuler les gens. ça paraît sale comme ça, mais c'est une façon de comprendre les interactions entre personnes.
Merci de nous avoir expliqué comment on s'est retrouvés ici. Qui vient ensuite ?
C'est moi.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Monica.
Ça va ?
Bonjour Monica.
Bonjour.
De quoi tu veux nous parler, Monica ?
Et bah, simplement d'une réflexion totalement inutile que je me suis faite en lisant un bouquin sur l'étymologie de fils et pourquoi ça se prononce comme ça.
Eh bien, allons-y.
Je vais passer un coup de fil, soyez sage. Hein.
Nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils.
Mon fils, il a fait ça !
Du coup, je lisais ce roman et je tombe sur le mot fils. C'était pas du tout la première fois de ma vie, mais je me suis dit, putain, pourquoi ça se prononce fils alors qu'il y a un L au milieu ? Et pourquoi ça se prononce différemment du mot fil, qui est un mot qui s'écrit pareil. Donc vous connaissez ce qu'est un homonyme ?
Oui.
Oui.
C'est quoi selon vous ?
Oui.
Quelque chose qui a le même nom, non ? Ou qui se prononce.
Qui va s'écrire pareil, mais qui se.
Typologiquement, c'est qui se ressemble en tant que nom.
Lis pas mes fiches, Juan.
Démasqué.
Donc, un homonyme, souvent, c'est utilisé dans le sens qui se prononce. Qui se prononce pareil, un homophone, mais ça peut aussi vouloir dire qui s'écrit pareil, mais qui ne se prononce pas pareil. Donc, dans le cas de fils, il y a plusieurs homophones. Par exemple, qu'il fils, donc c'est le verbe faire à un temps qu'on n'utilise plus du tout. Et il y a des homographes du mot fil, du mot fils.
T'inquiète pas, détends-toi, ça va aller.
À un moment donné, quelqu'un va dire fils de pute, ça va sortir, on va se détendre.
Ouais, mais j'ai hésité.
On l'a tous sur le bout de la langue là.
On est d'accord, fils de pute, non pas fil de pute.
Hey. C'est pas incompatible.
Donc le mot fils a aussi un homographe, donc fil. Du latin filum, donc il voulait déjà dire fil, filament, jusque-là on s'est pas fait chier.
On dirait une parodie, c'est fil, du latin filum, vraiment.
Mais du coup ça n'a aucun rapport avec les mamans et leurs enfants.
Eh bien j'y viens. Donc fils vient du latin filius, qui est un être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père ou à sa mère.
Ouais, la filiation en fait.
Exactement.
D'accord.
Oh. Donc jusque-là on tourne un peu en rond sur les mots de la même famille.
Oui.
Et
oui.
J'ai voulu savoir pourquoi on était passé de filius à fils. Donc le L.
C'était plus court.
Le L est purement graphique, donc il s'écrit mais se prononce pas du tout. Et d'ailleurs, il avait été supprimé dans plein de mots au XIIIe siècle. Il a été supprimé donc dans plein de mots au XIIIe siècle, mais il a été gardé dans plusieurs mots, par exemple.
Phileas Fogg.
Est-ce que vous connaissez des mots qui ont gardé le L? Mais qui ne se prononce pas.
Fils.
Alors il y a le pou.
Ah putain.
Ah, le pou. Ah oui, le pou.
Il y a l'aune. À l'aune de. Alors on.
Oui, ouais,
il y
a. Pas tous les jours.
Je ne connais pas.
J'ai réussi à trouver un lien entre aune et entre et l'arbre aune. Et à l'éclairage de en considérant puisque à la donc à l'aune de veut dire à la mesure de. Or, l'aune, c'est un bâton servant au mesurage.
Ah, il voilà. N'est pas à la mesuration.
Bah non.
Et bah apparemment non.
Du coup non, forcément. Parce qu'en fait, tu comprends, tu vois.
Non, mais mesurage, ça me...
Je sais pas, enchaîne.
Et il y a un autre mot que j'ai découvert en faisant cette chronique, c'est un pluriel. Est-ce que vous...
Ah ça, je connaissais comme mot, hein.
Ouais, non mais pluriel, il y a le L qui se prononce, mais c'est un mot au pluriel qui a un L. O, c'est le pluriel de quoi ?
De aïe.
Bravo.
Oh, joli.
Oh là 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 là.
C'était pas préparé, merci Palerme.
Ouais, mon visage n'était pas radiophonique, mais...
Non, mais...
Mon visage n'était pas radiophonique.
Tu as remarqué que pour les photos, j'ai pas pris non plus.
Merci Juan d'avoir lu ma fiche.
Ouais, c'est toujours un plaisir.
Donc, je vous rassure, aïe, ça se prononce toujours au pluriel.
Mais
avec
coup,
un S.
On dit des os, mais pas des os.
On dit des ailes et on dit des os.
Mais tu parles de ailes,
la plante.
Oui.
Je sais pas ce que c'est.
Enfin, qui est fort.
La plante, oui. Ouais.
Mais en général, tu dis pas passe-moi les ailes, tu dis passe-moi des gousses d'ail.
Exactement. Toi aussi, t'as lu ma fiche ?
Moi,
non ?
Moi, je dis passe-moi de l'ail.
Ouais, bon, ça marche aussi. Ouais. En tout cas, ça m'a fait marrer de me dire qu'il y avait une vieille forme de ce pluriel. Et j'aurais pu vouloir me la péter en disant non, on dit pas des ailes, on dit des os. Mais comme tu l'as dit, on dit des gousses. Et en plus, des ailes, ça se dit quand même. Bref,
ouais,
voilà, c'était totalement
ça,
inutile.
Chaud,
ça n'aurait pas marché.
Bon, donc le L a été gardé, on ne sait pas trop pourquoi, mais le S a disparu entre le XIIIe et le XVIe siècle. On gardait seulement la liaison avant les voyelles, donc ça faisait fils, genre fils unique ou fils aîné, enfin bref, les mecs avaient un peu un rhume. Et ça a été restauré au XVIIIe siècle. Alors je vous passe un peu les détails, il y a une histoire de vocatif, de est-ce que c'est devant une voyelle dans la phrase, est-ce que c'est devant une consonne dans la phrase, ou est-ce que c'est à la fin de la phrase. Toujours est-il qu'on a gardé le S.
Et on est bien content.
Et on est bien content. Et en fait, pendant l'époque où on ne disait plus le S, ça m'a fait penser à une expression haut-marnaise ou plutôt provinciale.
Attention.
Qui est le mfi, qui veut dire le fils de. Ça aurait pu parler à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui.
Mfi.
Et.
Maclouf.
Voilà, c'est lui.
Mais du coup, si on dit mfi pute.
Et tu lui demanderas.
Ah bah j'apprends le haut-marnais. C'est vrai qu'on commence toujours par les insultes.
Il n'y a pas que la Haute-Marne en fait. Et ça a été donc c'est une expression qui a été considérée comme vieillie dès les années 1900. Ouais. Et provinciale. Donc ça me faisait un petit peu marrer de traiter Karim de provincial en 1930.
Alors pour toi, provincial, c'est une insulte.
Mais la Haute-Marne est toujours au XXe siècle. Ça, on va pas se mentir.
Ça, c'est la Franche-Comté. On en a déjà parlé la dernière fois.
Ben, c'était un bien beau sujet.
Oui.
Merci. Merci.
Maintenant, on ne pensera pas la même chose quand on dira fils de. Maintenant, de quoi on va parler ? On va parler avec Hicham ?
Oui, on va parler de Al-Mamlak Al-Arabi Al-Saoudiya.
On a tous compris, mais pour nos auditeurs.
L'Arabie Saoudite.
Oh.
L'Arabie Saoudite. Cette terre d'accueil et de rencontre. Pays des droits de l'homme et du citoyen. C'est dans ce pays-là où je suis né, où j'ai passé 18 ans de ma vie, avant de découvrir le monde. Oui, je dis bien le monde, parce que là-bas, c'est pas vraiment le monde. Vous savez tous que habiter en Arabie Saoudite, c'est pas comme si t'habitais à New York, quoi. On peut trouver quelques
points communs.
Voilà, mais c'est pas
certaines voitures.
Voilà, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, donc on va passer. Donc l'Arabie, c'est le 13e plus grand pays du monde, avec une superficie de 2,15 millions de kilomètres carrés, et 95%, c'est du...
Pétrole.
Caillou.
Non, c'est du désert. C'est le pays le plus large du monde sans aucune rivière qui la traverse.
Il y en a.
Ouais. Sans aucune rivière qui la traverse.
Ah, d'accord.
Il faut écouter toute la phrase. Il y en a, mais c'est juste quand il pleut. Et je veux pas vous. Voilà.
C'est des flaques, quoi.
Voilà, c'est ça. Il pleut pas autant qu'en Écosse. Donc,
Et ça fera des noms de meubles pour Ikea.
Le Maclouf. Bref.
Ce sera le nom des couscoussières.
Et c'est aussi en Arabie Saoudite qu'il y a le plus grand marché au monde du.
Pétrole.
Non. Non.
De chameaux.
Exactement.
Bon,
les clichés qui sont vrais.
C'est ça.
Les clichés qui sont vrais.
Allez, c'est cadeau, les clichés. Tu veux des clichés, prends les clichés.
On y vend une centaine de chameaux par jour. Et à Paris, vous avez ici l'hippodrome de Longchamp avec,
avec les chevaux.
Exactement. Et ben nous, on a dans un coin dans le désert des courses de chameaux, où il y a plein de monde qui y vont, et les courses en voiture et tout, c'est vraiment incroyable.
En voiture, c'est les chameaux qui conduisent ?
Non, c'est les chameaux, et puis t'as les gens en voiture juste à côté, il n'y a pas de gradin, il n'y a rien, c'est vraiment en plein milieu de la pampa, quoi. Enfin, la pampa. Enfin, bref. En France, vous avez aussi les festivals, les concerts, les cinémas. Bah nous, on n'avait pas grand-chose, hein. On n'avait même que dalle. Tout ça, c'est interdit en Arabie Saoudite.
Mais c'était il y a combien de temps, pour resituer ? Parce que les gens ne savent pas si tu es vieux ou non.
Je suis né en 91, donc il y a 26 ans.
Mais il y a 26 ans, tu n'allais pas au cinéma.
Bah non, mais même quand j'avais 18 ans, c'est pareil. Hein.
D'accord, mais c'est juste pour voir l'époque où c'était interdit. Ou... Est-ce que c'est toujours le cas, par exemple ?
Oui, c'est toujours le cas, il n'y a rien.
Donc il y a
rien
là-bas. C'est-à-dire qu'il y a zéro cinéma en Arabie Saoudite.
Il n'y a pas de cinéma. Dernièrement, on n'a pas de cinéma, mais on a quand même eu un festival de... Enfin, c'est arrivé, je crois...
Festival de bande-annonce.
Non, un festival de cinéma, alors qu'il n'y a pas de cinéma. Il y a deux ou trois producteurs que je connais rapidement. Mm-hmm. Mais sinon, non, on n'a pas tout ça.
Et qu'est-ce qui fait que la culture n'est pas, j'allais dire, pas autorisée, mais pas développée de cette manière-là ?
J'y arriverai tout à l'heure. C'est tout en rapport avec l'islam.
Oh, je pense que ça va déraper puissance 12. Mais allez.
Non, non. Donc ouais, ici vous avez aussi des boîtes de nuit, des bars et tout ça. Bah, nous, tout ce qu'on avait, c'était on se retrouvait dans un campan. C'est une sorte de ghetto pour les étrangers plus ou moins riches. Mm-hmm. Et on se retrouvait autour de la piscine en déconnant, en buvant du Pepsi. Oui, parce que le P n'existe pas en arabe. Donc ça se prononce Pepsi. Et il y a aussi le Saoudi Champagne, les gars. C'est un mix chelou d'eau gazeuse,
de chameau.
Oui, enfin, champagne entre guillemets. Hein. C'est de l'eau gazeuse, si je me rappelle bien, de la menthe, des agrumes. Et...
Ça mojito,
c'est
quoi.
Très bon.
C'est un mojito.
Un virgin mojito.
Et du coup, les campagnes, c'est un peu comme un pire et vacances ou...
Tu dis très bien campagne.
Campagne.
Ouais, c'est un peu ça. On peut voir ça comme ça. On est vraiment déconnecté du monde là-bas. Ça n'a rien à voir. Une fois arrivé en France, ça m'a pris quelques mois avant d'entendre les pires conneries du monde, quoi. Et c'est là où je vais intervenir, où j'ai entendu vraiment des conneries pas possibles, les clichés.
Au sujet de l'Arabie Saoudite.
Voilà, de l'Arabie Saoudite.
Vous allez à l'école en chameau.
Exactement. Donc, déjà, avant d'attaquer les clichés, c'est quoi la capitale de l'Arabie Saoudite ?
Carthage.
Oh, Abu Dhabi,
Babylone, la réponse aux
autres. Voilà, donc c'est Riyad.
Riyad.
Donc je dis ça.
En plus, comme les grandes maisons au Maroc.
C'est un peu ça, oui. Du coup, ouais, donc c'est Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays. Dubaï n'est pas en Arabie Saoudite. Parce que le nombre de fois on m'a dit, quand je leur disais, ouais, je viens de l'Arabie Saoudite, on dit, ah, mais j'adore Dubaï. Non, c'est pas la même chose. Il faut vraiment passer le cap, enfin, réviser votre géographie, c'est pas la même chose. J'ai eu donc des florilèges de questions les plus connes les unes que les autres, surtout quand tu remarques que la personne est vraiment sérieuse en face de toi, quoi. J'ai demandé à la communauté de Riyad sur Facebook, que je salue, que je remercie parce qu'ils m'ont donné vraiment des perles. Il y a quelques questions classiques qu'on a quasiment tous eues, comme tu l'as dit, Ilias, tout à l'heure, est-ce que tu partais à l'école en chameau, tu dormais dans des tentes ?
T'avais l'eau potable ?
Non, mais c'est...
On n'a pas eu la réponse sur les chameaux d'ailleurs, moi j'attends toujours.
Non, c'était des dromadaires. Donc les clichés, ils sont vraiment nombreux, j'en ai eu plein, et puis sur Facebook, on m'en a donné vraiment, mais j'ai vraiment rigolé. On m'a souvent posé la question, mais tu parles super bien français en fait.
Génial.
Non, mais très bien. Tu crois que je vais parler comme ça toute ma vie ou... Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a les Français qui ont habité en Arabie Saoudite, on leur a souvent posé la question, mais du coup, tu dois parler arabe, toi. Donc ça, c'est un autre cliché où sur Facebook tout le monde me l'a dit, quoi.
Mais du coup, pourquoi non? C'est-à-dire qu'il y a des, c'est plutôt comme au Maroc, beaucoup d'écoles françaises ou plutôt en anglais ou...
En général, quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est des étrangers et ils vont dans des écoles anglaises, des écoles françaises, des écoles.
Toi, t'étais en école française.
Moi, j'étais à l'école française.
Ouais. En tant qu'expat, tu peux très bien parler uniquement français et t'en sortir extrêmement bien.
Il faut, enfin, tu connais quelques mots en anglais, ça te suffit largement.
Parce que dans tous les cas, avec le principe de campagne dont tu nous parlais tout à l'heure, t'es pas tellement exposé à la culture, du coup, t'as pas besoin
non,
en fait de.
Mais dans des campagnes, tu habites avec d'autres étrangers.
Ouais.
Oui, mais en fait,
il y a pas un campagne. Parler arabe finalement.
T'es coupé des Saoudiens en fait.
Carrément.
Tu pas avec eux.
Carrément. Moi, c'est assez différent parce que j'ai pas habité dans un campagne. Mais voilà, t'as des Américains, t'as des Anglais, t'as des Sud-Africains, enfin voilà.
Je propose qu'on dise Pierre et Vacances à partir de maintenant, parce que peut-être qu'on aura un sponsor, n'oubliez pas les sponsors.
Il y a quelqu'un sur Facebook qui lui a posé une question, t'es allé dans une école normale, avec des vrais cours et tout?
Non,
je suis allé dans une école de tagine.
On m'a appris le cunéiforme qu'on gravait sur des tablettes à l'argile.
Bon. J'irais pas à dire normal parce que à l'entrée de l'école, on avait des voitures blindées avec des militaires armes à la main. Pour rentrer dans le parking, t'es fouillé. Ils ont même construit un mur de, je dirais, je sais pas, 4 mètres de haut en béton armé.
Comme aux États-Unis.
Ouais, normal. Je sais pas. Mais voilà, enfin, à part ça, on a le même diplôme que vous, les gars. Donc, vous le savez tous, en Arabie Saoudite, c'est une monarchie.
Ah bah je ne le savais pas mais...
Ah bah maintenant tu le sais, c'est une monarchie, c'est la dernière monarchie significative, et ce depuis sa création en 1932.
Ah, qu'est-ce qu'on entend par significative ?
Ça veut dire que c'est vraiment la seule monarchie qui est la monarchie absolue. Est-ce que vous savez quelle famille règne en Arabie Saoudite ? Bon, je sens que...
Non, merde, j'allais dire une réponse, mais non, ça c'est au Maroc.
Bah...
Elle est alaouite, c'est pas du tout ça.
Non, pas du tout.
En fait, juste, Hicham m'a énormément fait rire. Quand tu as posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie significative, Hicham m'a posé exactement la même question hier soir, en préparant son sujet.
Merci Camille.
Bon, je te poserai la question la prochaine fois.
Du coup, quelle famille règne en Arabie Saoudite?
J'en ai aucune idée, je suis
famille, la famille du roi.
Ouais, réfléchissez au nom.
Réfléchissez.
Au nom Arabie.
Les Saoudis.
Les Al-Saoud.
Ah, bah j'étais pas loin, ça va. Ça
c'est l'Arabie des Saouds en fait.
Je l'ai prononcé à la française.
Ça n'a pas changé depuis qu'elle s'appelle comme
non,
ça.
Non, depuis 1932. Donc pour la petite anecdote, Winston Churchill, c'est lui qui a dessiné la frontière de l'Arabie Saoudite. Et,
c'est bien fait.
Oui, sauf que quand tu sais, tu connais l'histoire, c'est un peu moins bien fait. Parce que quand il est en train de dessiner les limites, il avait le hockey.
Il est éternué.
Mais c'est vraiment ça. Il avait le hockey, il a ripé et il a bouffé du territoire de la Jordanie. Il a pris comme ça plusieurs centaines de kilomètres carrés. Mais c'est vrai, tu vois.
Mais les gommes existaient à l'époque. je ne suis pas d'accord. Les gommes et les verres d'eau existaient à l'époque.
Non, ouais, parce qu'en fait, je veux pas niquer l'ambiance, mais quand tu dessines une frontière, ça fait rien dans la vraie vie, ça fait pas un sillon.
Si, comme dans les Sims, tu sais, ça te crée un mur.
Donc l'Arabie Saoudite, c'est aussi un pays mu. Majoritairement sunnite et.
Wahhabite.
Wahhabite, bien joué Camille.
Est-ce que tu peux rapidement définir Wahhabite?
Exact, ok.
Et sunnite aussi, moi je veux bien.
Et sunnite.
Sunnite, c'est une branche de l'islam, que j'ai pas envie de dire de conneries, qui voulait s'arrêter à l'époque du prophète Mohammed. Et les chiites, donc c'est les deux grandes branches de l'islam, et les chiites voulaient continuer.
Si je peux me permettre, les chiites, en fait, c'est ceux qui sont du côté d'Ali.
Oui.
C'est-à-dire, ils voulaient qu'il y ait à chaque fois, entre guillemets, un pape. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait un chef qui représente l'islam, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des sunnites. Voilà.
Ouais. Donc, le wahhabisme, c'est un courant traditionnel qui condamne toute innovation par rapport à l'enseignement original de l'islam, où ça vous fait peut-être un peu penser au salafisme.
Ouais.
C'est un peu pareil, sauf que le wahhabisme, bon, vraiment en gros, hein, parce que moi je suis scientifique, je suis pas historien, le wahhabisme se contente d'avoir un chef local de l'État, alors que le salafisme veut un État islamique, et revenir à l'époque, au califat pour l'ensemble des croyants.
D'accord.
Donc c'est un peu l'État islamique, quoi. Ça fait un peu peur, quoi, quand on dit comme ça.
Mais oui, ça fait peur. Oui.
Ça, ça fait pas rêver, quoi.
Salafistes qui font pas... Enfin, l'État islamique ne se confond pas avec le salafisme.
C'est un peu, si.
Je suis d'accord avec toi.
Genre la fistinière, c'est une très bonne
salafiste. Je préfère juste le préciser. Je suis absolument pas une spécialiste,
elle
mais...
Continue. Ouais.
Mais en gros, les deux, ils veulent un peu revenir à l'époque du Moyen-Âge, parce que... Voilà, l'islam a été créé dans les années 500 et des patates. En Arabie Saoudite, c'est la charia qui s'applique, mais il faut arrêter avec les clichés. J'en ai marre d'entendre des questions en mode « Du coup, ton père, c'est un islamiste, c'est pour ça qu'il est là-bas » Non, pas du tout. T'as vécu en Arabie, je ne savais pas que tu étais musulman. Il y a 30% de la population, ce qui correspond à peu près à 10 millions d'habitants. C'est les 10 millions.
30% de la population qui est musulmane. Ouais. En même temps, est-ce que tu sais pas le nombre d'expats, ce que ça représente au niveau de la population?
Bah non.
Ouais, c'est qu'il y en a quand même pas mal, mais je serais pas capable de donner un.
Après, 30%, moi je pense que c'est vraiment tous les étrangers, indiens, pakistanais y compris. Quoi.
Mais si je peux me permettre, les chrétiens sont tolérés, les pakistanais aussi, mais les juifs, me semble-t-il, sont interdits de séjour en Arabie saoudite.
Ouais,
c'est bien ça.
C'est pas juif.
Absolument. Ah oui, tu peux pas être sur le territoire si tu es juif.
Donc on te laisse pas rentrer en gros.
Exactement. Bah déjà, si t'as un passeport israélien, tu peux pas rentrer sur le territoire saoudien.
Enfin, il y a plein de juifs qui viennent pas d'Israël.
On a aussi eu le droit à des questions du genre quoi, il n'y a pas d'alcool, pas de pub, ni de boîte de nuit.
Et on te l'a demandé avec cette voix-là.
Ah, mais ouais, carrément.
Tu vois, mais si, dans les compounds.
Dans les compounds, il n'y a pas de vodka.
Non. Et on m'a même dit non, mais vous faisiez comment pour faire des soirées sans alcool? Eh ben, on avait du Saoudi champagne, les gars. Voilà.
Ouais, mon gars.
Sans alcool, la fête est plus folle.
Exactement. Et juste pour finir, on avait aussi des questions en mode, et ça je l'ai eu et re-eu, est-ce que t'as déjà eu une
relation sexuelle?
Non.
Bah, toujours pas, il serait temps. Camille, fait quelque chose. Là. Le jeune homme est congéné.
Avant le mariage.
Est-ce que t'as déjà vu une exécution? Non, d'après les chiffres d'Amnesty, au moins 175 personnes ont été tuées entre août 2014 et juin 2015, ce qui représente vraiment beaucoup de personnes.
Oui.
Ça fait en moyenne une personne sur deux, une personne tous les deux jours. Hein.
Toi oui, toi non.
Une personne.
Tout à l'heure, tu disais que t'étais plutôt science et pas trop histoire. Niveau maths, c'est chaud quand même.
Alors, en moyenne, une personne tous les deux jours qui est tuée.
L'Arabie est donc positionnée dans le cinquième, dans le top 5 des pays les plus
Seulement les plus. C'est un peu inquiétant de se dire qu'il y en a 4 devant.
Ouais, bah il y a l'Iran, l'Irak.
La Turquie, non?
Non.
Les US?
Oui.
La Turquie, pas encore, mais ils y arrivent là.
Ouais, ils y arrivent dans la Turquie.
Ils gagnent du terrain. La Tchétchénie commence à être pas mal aussi.
Et les États-Unis.
Un pays asiatique aussi, je
dirais. La Chine.
Ouais, la Chine. Ah, bah oui.
Un pays asiatique. C'est bien, c'est léger comme dénomination. C'est respectueux, c'est léger.
Est-ce que vous savez pour quel motif on peut tuer des gens là-bas?
Adultère.
Adultère. Vol. Vol, en général, c'est le vol à main armée. Alors, quand tu voles, on te coupe la main.
Il n'y a pas une histoire de mettre la honte sur quelqu'un? Alors, j'avais vu beaucoup d'histoires par rapport à Twitter où si tu prenais quelqu'un en photo et que tu l'affichais en fait sur un réseau social, ça pouvait avoir des peines assez lourdes.
C'est la peine de Chuma.
Non, ça me dit absolument rien.
Non, bon, faudra que je regarde.
Et du coup, il y a homicide, viol, vol à main armée, trafic de drogue.
Non-respect de la religion.
Non-respect de la... Oui.
Enfin, je veux dire, manquer de respect à l'islam.
L'apostasie. L'existence du prophète, mais aussi...
La base fondamentale de l'islam.
C'est ça, ouais.
Bah, c'est un blasphème musulman.
C'est un blasphème, mais c'est aussi... C'est aussi renier l'autorité du roi en Arabie Saoudite. Donc, voilà. La sodomie, l'homosexualité... En général, ça va ensemble.
Oui.
Non, clairement pas.
La sorcellerie.
C'est bien une réplique de Saoudien, ça.
Il y a aussi la sorcellerie. Ça, je n'étais pas au courant.
La sorcellerie.
Oui. On avait arrêté deux bonnes en Arabie Saoudite, condamnées à 10 ans de prison, à une centaine de coups de fouet.
Est-ce qu'en Arabie Saoudite, on peut être arrêté pour sorcellerie juste parce qu'on porte un jean?
Non.
Jean.
Ah.
Ok. Okay.
Merci.
Ouais, donc j'étais pas au courant de tout ça parce que c'est pas un truc que t'y penses quand t'es jeune. Mm-hmm. Du coup, je me suis renseigné et à Riyad, puisque je viens de Riyad, la capitale, il y a une place carrée dans le quartier de Diriyah qui est la place de l'exécution. Et donc, oui, c'est public. Mm-hmm. Les exécutions sont publiques. Pour la petite anecdote, en 2013, il y a eu une pénurie de bourreaux.
Une pénurie de bourreaux.
Une pénurie de bourreaux. Donc,
D'ailleurs, je me permets d'interrompre, les exécutions, ça se passe comment en Arabie Saoudite?
Bah, alors, en général, t'es d'abord emprisonné dans une vieille cellule de merde, je pense. Hein, j'ai jamais. Donc, t'es foutu dans une prison de merde, tu reçois quelques centaines de coups de fouet, parce que voilà, c'est la coutume, c'est sympa.
Très léger sur le quelques centaines. Je suis certain que ça change beaucoup de choses pour ceux qui les reçoivent.
On est lapidé si on est condamné pour adultère. Et en général, tu finis par un coup de sabre.
Schlack.
En 2015, le gouvernement a mis sur leur site officiel, donc le site du gouvernement, une offre d'emploi assez sympathique qui recherchait 8 bourreaux.
Quelle motivation tu demandes? Quelle qualification technique?
Mais justement, t'avais pas besoin de diplôme, t'avais pas besoin d'expérience, tu apprenais dans le tas, quoi.
Ah oui, ils ont dû trouver ça très rapidement.
Ah, ils te formaient?
Je sais pas. Vous pouvez quand même échapper à la peine de mort en Arabie Saoudite, qui s'appelle le blood money. En gros, tu payes si la famille de la victime est d'accord. Le gouvernement a mis en place un prix fixe qui est de 100 000 euros.
Un forfait.
Non, mais...
Vous pouvez payer en 4 fois, mais...
Je rigole. C'est 100 000 euros et 50 000 euros pour une femme, parce que la vie d'une femme, ça coûte moins cher.
Après, on dit qu'on est égaux, voilà. Elle paye moins cher. Et puis...
Mais il y a même une assurance au cas où tu comptes tuer quelqu'un.
Ah, c'est méga chaud.
Et du coup, ouais, les exécutions, elles sont publiques. Elles sont dans une place à Riyad, dans le quartier de Diriyah. D'ailleurs, petite anecdote aussi, j'ai tapé, du coup, en cherchant mes petites références sur Google, Diriyah, place des exécutions. Et ça m'a mis ouvert aujourd'hui, 24 heures sur 24. Cette place-là, elle s'appelle Justice Square, ou aussi Chop Chop Square.
Oh non!
Donc l'image vient directement. Voilà, chop, 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 chop. En général, les exécutions ont lieu le vendredi. Donc oui, elles sont publiques, sauf que le public n'est pas prévenu. Donc il n'y a pas un mec qui, en sortant du métro, qui te donne un flyer. Venez assister à la mort de un tel et tel.
C'est un happening en fait.
J'ai lu un truc où il y avait un type qui avait enregistré avec son téléphone une exécution d'une Britannique, il me semble. Et cette personne-là, ils l'ont retrouvée et elle s'est faite exécuter.
C'est interdit de filmer les exécutions
Là, apparemment, oui. D'accord.
Parce qu'il avait filmé en vertical avec son iPhone, bordel, on le dit toujours à l'horizontale pour filmer.
Oui, parce que mine de rien, il y a quand même du secret sur le fonctionnement de l'Arabie Saoudite. C'est pas la Corée du Nord non plus, mais
Est-ce qu'il y a vraiment une petite, un petit peuple, sans que ce soit du tout péjoratif, mais une basse classe saoudienne qui genre en chie tous les jours et est totalement en dehors de tout ça?
En général, c'est les tout ce qui est pakistanais, indien, c'est vraiment la classe ouvrière.
Ok, donc ouais, c'est des ouvriers extérieurs qui sont venus là pour travailler comme main d'œuvre.
C'est ça.
Ok.
C'est ça. Voilà.
Ok.
Choukran.
Ok, bah du coup maintenant on va finir sur une note un peu plus légère avec Juan qui va nous faire une petite surprise.
Ah bah oui. Alors ça va être un espèce de quiz.
Bah, j'ai mes infos, je sais que c'est déjà pas sur les poneys qui toussent.
Ce ne sera pas sur les poneys qui toussent. En effet, ça va être une sorte de blind test sur...
Va me chercher le monstre.
Le quoi?
Cours! Un monstre! Un monstre chez moi! Au secours!
Alors, les monstres. Il y en a beaucoup au cinéma. Et histoire de rester quand même dans la vulgarisation, on va faire un petit blind test de monstres. Je vais vous faire écouter un monstre, et vous allez me dire, et puis peut-être que je pourrais vous dire d'où vient ce bruit. Allez. Comment on a fait le bruit de ce monstre?
Banco.
Sympa. Film et série uniquement, ou d'autres choses un peu plus...
Ça va être très filmique. Okay. Ouais. Mais pour vous donner du sens sur le côté un peu random de ce truc-là, Camille, nous ayant menti sur son extinction de voix, j'ai préparé ça à l'arrache 2 heures avant. On va commencer facile. Donc concentrez-vous, je vais vous passer un extrait, vous allez me dire qu'est-ce que c'est.
C'est une perceuse, ça.
Un T-Rex.
Ah, un T-Rex de
Jurassic Park.
En effet, on le réécoute.
C'est ridicule, en fait.
Et quand on l'écoute tout seul, ça fait bizarre. C'est le T-Rex de Jurassic Park. Comment on a pu faire ce bruit? Parce que je sais pas si vous savez, mais on n'a pas retrouvé de gramophone du préhistorique. Donc on ne sait pas le bruit que faisait un T-Rex. Alors... Pour vous donner une idée, je vais pas faire ça pour chaque cri, donc profitez-en. On a mélangé un bébé éléphant, un alligator et le cri d'un tigre. Et les trois mélangés, bah ça donne ça. Avec un petit peu de mixage sonore, je vous l'accorde, mais on arrive là-dessus. Vous avez compris l'idée?
C'est magnifique.
Le mix, c'est pas déconnant au final. Hein.
Bah non. Ensuite, deuxième. Un peu plus difficile cette fois.
King Kong.
Godzilla.
Ça aurait pu, mais non.
C'est pas un animal marin.
Ce n'est pas un animal.
C'est récent ou non?
Ce n'est pas un animal. Alors c'est récent, oui et non. Parce qu'il y a eu des récents et il y a eu des pas récents.
Donc c'est pas le Titanic qui coule.
Ce n'est pas le Titanic, mais on se rapproche.
Oui, c'est marin. C'est un gros poulpe.
Non, ça a un côté marin, mais quand il a dit Titanic, je pensais plus au fait que c'est pas forcément un animal.
On peut réécouter?
Je vais vous le remettre.
Un iceberg.
Si je vous parle de quelque chose qui a fait fuir beaucoup de gens, qui a créé une panique générale dans la vraie vie.
Les requins?
Les Pokémon.
À cause d'un passage radio.
Ah,
Les carottes sont cuites?
Non.
non, la fiction qui a été passée à la radio, là...
Oh, un alien, c'est pas la guerre des mondes?
La guerre des mondes, exactement.
Oui.
En effet, il s'agit du bruit des tripodes de la guerre des mondes. Alors, ça, c'est le bruit en particulier de la version de Steven Spielberg. Qui, personnellement, m'a terrifié. Le film, pas forcément, mais cette espèce de bruit mécanique extrêmement sombre. Moi, ça m'a terrifié. Alors, ce bruit-là, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit mécanique de la chose, et puis il y a l'espèce de trop de point qu'on entend. Ce point, ça vient d'où, à votre avis?
Un saxo?
Ça pourrait, mais non.
Ah, mais du coup, l'objet, vraiment, ou dans
le bruit, avec quoi on aurait pu le faire?
On dirait un bruit d'un port ou d'un bateau.
On dirait un bateau, en effet. Eh ben, non, pas du tout. En fait, ce bruit, c'est un mélange de sons de train, de montagnes russes et de chaînes de vélo. Ça, c'est pour les bruits mécaniques qu'on a en arrière-plan. Et le son lui-même, c'est un didgeridoo qui a été légèrement remixé et un frottement sur une peau de djembé.
Je suis tellement déçu, j'ai failli dire didgeridoo.
Eh ben, il y avait un côté didgeridoo.
Pour rarement le placer en plus didgeridoo.
Donc on va passer au troisième. Vous êtes prêts?
Prêt à fond.
The Grudge.
Ah, on a déjà la réponse. The Grudge.
Joli.
En effet.
Oh, c'est ça.
Et on dirait aussi
il m'a traumatisé,
les comédiens de la Maison Hantée de Paris.
Ah, du Manoir de Paris.
Le Manoir de Paris.
Absolument.
Avec qui tu t'étais très bien entendu.
Big up à Cora et sa camisole. On va se le réécouter un coup quand même pour le plaisir. Pour le plaisir. On a ta petite montée.
ça me...
On aime bien ça.
Ça me fout les
problèmes gastriques. Hein.
Comment on a fait ça?
On dirait que
les petits instruments là où.
Ouais, c'est ce que j'allais dire qui font.
Non, juste une guitare. Tu mets un médiateur
à la bouche. Juste à la bouche. Et qui a fait ça?
Le réalisateur.
Le réalisateur, exactement. Takashi Shimizu. Et pourquoi il a choisi ce bruit-là? Parce qu'en fait, il faisait ça tout le temps pour faire chier sa famille. Parce que ça leur faisait peur. Il se planquait derrière le canapé. Il faisait. Et ça l'a tellement marqué dans son enfance que quand il a fait son film The Grudge, eh ben, il a choisi de mettre ce bruit-là. Alors, attention. Ça va être assez compliqué parce qu'on est très proche du précédent.
Alien.
Non.
Des castagnettes très rapides.
Ça pourrait, mais ce ne sont pas des castagnettes très rapides. Du coup,
Albanio Banderas. Épileptique.
Quelqu'un qui claque des dents.
Est-ce que non, on est toujours sur un monstre de cinéma.
Est-ce que tu peux nous donner une fenêtre de tir au niveau de la date à l'époque?
Au niveau de la date, non.
Indice,
je peux vous donner un indice peut-être si je vous parle de jungle.
Ok, c'est pas Good Morning Vietnam déjà.
Ce n'est pas Good Morning Vietnam. Si je vous parle de
Georges de la jungle.
Non. Si je vous parle de Arnold Schwarzenegger.
Terminator.
Non.
Ah j'ai pas. J'ai
Arnold Schwarzenegger dans la jungle. Il a pas fait beaucoup de films avec des monstres.
J'ai vu peu de films avec Arnold dans la jungle avec des monstres.
Alors tu parlais d'Alien tout à l'heure.
Ouais.
Predator.
Ah, bah voilà.
Ah, allez, pop.
C'est le Predator, en effet. Et le bruit se rapproche pas mal du bruit du Grudge. Très beau bruit, personnellement, je suis fan. Ensuite...
Et du coup,
attends,
c'est
comment, il a été fait?
Ah, comment il a été fait, pardon, autant pour moi. Eh bien, figurez-vous que il a été fait... non, il a été fait à la voix, également. Il a été fait à la voix par l'artiste vocal qui s'appelle Peter Cullen. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas forcément d'histoire derrière, c'est juste Peter Cullen qui a fait.
J'y crois rien.
Encore difficile, ça dépend en fait de votre enfance, est-ce que vous avez été traumatisé ou non.
J'ai hit.
Ah oui,
parce que j'entends enfance et traumatisé.
Ah oui, oh là là.
Donc ça, en français, adapté de Stephen King, et qui était l'acteur qui jouait?
Ah, celui qui faisait le clown.
C'est lui qui faisait le clown, qui a fait aussi le méchant dans Legend, qui a fait aussi le Rocky Horror Picture Show.
Oh, il a fait qui dans Rocky Horror?
Bah, le docteur. C'est Tim Curry. Gros bisous à Tim Curry. Alors là, on va monter un petit peu l'ampli, hein. On va arriver sur du plus simple aussi.
Godzilla.
Ouais. En effet.
C'est bon, je l'ai eu cette fois.
C'est Godzilla.
Ah.
Comment on a fait ça?
J'entends un basson.
Eh bien non, rien de tout ça.
Mais pas vraiment.
On a pris une contrebasse, une très grosse contrebasse. On a pris des gants en cuir. On a pris de l'enduit de résine de pin.
Et on t'a mis dans le cul.
Et on a frotté les cordes.
Ah oui, d'accord. Alors,
pour être un peu plus clair, ça c'était le bruit original de Godzilla qui a été utilisé pendant des dizaines et dizaines d'années. Celui que vous avez entendu, c'est le tout dernier. Donc il y a pas mal de sound design derrière. Mais
il a mué, il a grandi.
Il a mué, mais c'est assez similaire. Il a surtout pris quelques étages de hauteur. Et du coup, bah, en frottant une contrebasse, avec des gants en cuir, on a la base de ça, ce que je trouve très impressionnant. Ensuite, quelque chose d'assez connu.
Ça me dit quelque chose.
Ah,
oui, oui.
Je veux bien que ça te dise quelque chose, en effet, oui.
On dirait une intro de Beastie Boys, mais...
Des oiseaux d'Hitchcock?
Non. On a eu la réponse tout à l'heure.
Alien.
Ah bah oui.
Oui. C'est le bruit du xénomorphe. Alors il a une histoire assez rigolote celui-là. Je vous laisse le réécouter une fois. Parce que ce son-là,
un disque rayé.
On dirait un peu un disque rayé. Ouais. En fait, ce bruit a été créé par un ornithologiste qui s'appelle Percy Edwards et qui, en fait, à force d'observer les animaux, a pris comme hobby d'essayer d'imiter leur bruit, de faire des bruits d'animaux. Et du coup, c'est lui qui a fait le bruit du xénomorphe de Alien qui consiste en un. Et un espèce de... un peu bizarre.
Mais tu devrais te reconvertir.
Et le dernier, il est pas facile. Pas facile du tout, il va falloir vous concentrer. Il a un cri très particulier.
C'est notre projet.
Ah, ça me dit quelque chose. Ah,
je l'ai entendu récemment.
Je vous remets un coup.
C'est notre projet.
C'est pas Monsieur Parlin Papa?
Ouais, on n'est pas loin.
C'était une fenêtre de tir pour l'époque du film.
C'est très très récent. Hein.
Et il est sorti il y a une semaine, celui-là.
Des francophones.
Ouais. Celui qu'on appelle Monsieur le Président. Alors, il faut savoir que celui-là, il a été créé de manière assez particulière. Il a été créé en faisant monter la xénophobie et le sentiment d'insécurité pendant quelques temps. Ensuite, on a accumulé 3 quinquennats pourris en faisant des couvertures pendant un an. On a engagé des communicants qui te demandent de passer en Super Saiyan pour gagner en charisme. Et ça donne ça.
C'est notre projet.
C'est l'évolution du sound design dans les époques, c'est monstrueux.
Et ce sera tout pour moi.
C'est un magnifique sujet. On a vu beaucoup de talent de bouche, ce qui nous rappelle un peu le sujet de Camille du dernier épisode.
Le talent de bouche, oui.
Du coup, ça sera la fin de cet épisode avec beaucoup de très bons sujets. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci.
Merci encore pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, qui ont relayé notre épisode, qui nous ont laissé des petits mots et tout, c'était très gentil. Donc on vous encourage effectivement, si vous avez apprécié ou si vous avez des commentaires à faire ou des sujets à proposer, on vous encourage donc à liker, commenter et partager sur les réseaux. Donc sur Facebook, la page c'est Pardon Maman Podcast. Sur Twitter, @PardonMamanPod.
C'est important Twitter pour poser des questions, proposer des sujets, etc. Allez sur Twitter.
On répondra dans tous les cas, même si les sujets sont étranges. Pas de problème.
Proposer des sujets, allez-y à fond.
On est aussi sur iTunes, on a eu des messages très gentils également. Et puis voilà, sur d'autres plateformes, PodCloud, on a aussi été accepté par Podcast France sur leur annuaire. Donc on est très contents, on les remercie. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Au revoir.
J'ai la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.